Chapitre 62. Des verrous qui résonnent. Depuis le parking où je suis garée, je regarde le bâtiment austère qui s'élève devant moi, en pensant à Capucine. À nos premiers échanges de messages, légers comme des petites fleurs sur mon champ de bataille. À mes deux genoux à terre quand elle m'a parlé d'Oscar. Je voulais pas y croire. Mon cerveau refusait, mon cœur bottait en touche, mon instinct était perdu. Puis au soulagement quand elle m'a repêché de la peine dans laquelle je me laissais doucement couler. J'éprouve plus que jamais l'envie de me battre pour elle. Je m'apprête d'ailleurs à arpenter un autre champ de bataille, ceint de barbelés et de miradors, empli de bombes prêtes à exploser. La présence d'un ami au sein de cette maison d'arrêt me facilite la tâche. Après avoir déposé mon téléphone et mes papiers dans le casier adapté et avoir passé le portillon de sécurité, l'agent d'accueil a appelé Cédric pour qu'il vienne me chercher. Nous avons toujours plaisir à nous revoir, même si nous n'en avons pas souvent l'occasion. On refait le monde au milieu de bruits de verrous qui résonnent dans ces couloirs sans fin. Nous sommes sur la même longueur d'onde, et je lui fais confiance. Lui aussi. Sinon, il ne m'aurait pas dit oui. Bloom n'est pas avec toi. Je l'ai laissé dans la voiture. Tu as une muselière? Il n'aime pas trop, mais je peux lui mettre. Va le chercher, je préviens mon collègue. Ton chien fera un peu diversion. Alors que nous déambulons dans le couloir, j'évoque le détenu Simonet en lui expliquant l'épisode sur le quai de la gare, avec son frère dont la réaction étrange m'a mis la puce à l'oreille. Je parle de Capucine, de mes recherches et mon instinct qui s'est mis à clignoter. Je garde pour moi le récit du vieil Albert. Profondément humain et très investi dans son métier de surveillant, Cédric connaît l'histoire de la plupart des détenus. Ce gamin me fait de la peine, il est arrivé tout juste majeur, un peu en état de sidération après sa condamnation. 12 ans de prison à cet âge, je te laisse imaginer. Double homicide, et la troisième victime avec de lourdes séquelles, des circonstances aggravantes, jeune conducteur, alcool et cannabis, vitesse, infraction routière en grillant le stop. Puis ajoute les articles dans les journaux et le fait que les victimes soient connues et reconnues. Les juges ont marqué le coup. Avec des remises de peine, il est sur le point de sortir, mais il va payer le restant de ses jours. Une existence gâchée par l'inconscience. Il a des visites? Sa mère, de temps en temps? Son frère, j'ai dû le voir une fois ou deux au début, et puis plus rien. Jusqu'à avant-hier, tu m'y fais penser. J'ai trouvé Kevin fermé comme une huître après son passage, mais il ne parle jamais de lui. C'est un bon gamin, je le vois serrer les dents depuis qu'il est là. J'ai guetté pour qu'il ne se fasse pas embarquer dans des mauvais tripes avec les autres détenus et qu'on lui foute la paix. C'est le genre de gosse vulnérable pour des prédateurs un peu tordus comme on en a dans toutes les maisons d'arrêt. Tu penses que je pourrais m'entretenir avec lui quelques instants? Tu sais que c'est pas trop légal ce que tu me demandes là, hein? Je sais, mais il y a un truc qui tourne pas rond dans cette affaire. C'est bien parce que c'est toi. Cédric salue ses collègues à la porte suivante et me présente à eux comme un ami maître chien qui vient visiter la structure pour d'éventuelles interventions de zoothérapie. Je fais asseoir Bloom à côté de moi. On échange quelques mots à propos de lui, de ses performances, de son dressage. Ses yeux de chien battu avec sa muselière doivent faire pitié car l'un d'eux me propose spontanément de la lui enlever. Il a l'air gentil, obéissant, ton chien, tu peux lui virer ce truc. Par contre, tu fais en sorte qu'il morde personne, hein, hein? Ou alors, on te dit lesquels? Ajoute-t-il en riant. Aucun risque. Je lui fais visiter la structure, tu m'ouvres? Lui demande Cédric. Tous les détenus se retournent sur notre passage. Certains tendent la main pour essayer d'attirer le chien vers eux. Bloom marche au pied, comme je le lui ai demandé. Il est d'une obéissance exemplaire, particulièrement confortable dans ce genre de situation. Je crois que je n'arriverai jamais à me faire à cet univers carcéral. La misère du monde y est concentrée. Le bruit des portes qui claquent au bout des couloirs, les cris des détenus, les regards suspicieux et d'autres presque gentils. C'est une société dans la société, un monde à part, sûrement nécessaire à l'équilibre d'une nation et pourtant désespérant. Les visages de ces hommes sont marqués par le tabac, l'alcool, la drogue, l'errance, l'enfermement, Nous évoluons dans le dédale sans fin. Des couloirs, des escaliers, d'autres couloirs et des grilles au bout de chacun. Des gardiens pour les déverrouiller. Et ces claques puissants qui courent le long des murs. Le passage de mon chien ressemble à un rayon de soleil qui balayerait une zone dévastée par un ouragan. Tu as parlé de zoothérapie? Médiation animale en milieu carcéral. On a déjà une petite nana qui vient visiter les détenus une fois par semaine avec son chien, son rongeur et sa perruche. On croirait pas, mais ça leur fait beaucoup de bien. Même les plus taiseux finissent par lâcher une ou deux confidences sur leurs émotions pendant qu'ils caressent son chien ou qu'ils tiennent son hamster dans leurs mains de gangster. On a une directrice ouverte d'esprit qui nous permet d'utiliser ce genre de médiation pour améliorer leur quotidien. Tu veux vraiment que je vienne le proposer avec Bloom? Disons qu'aujourd'hui, ton chien nous a juste permis d'ouvrir quelques portes, l'air de rien, pour te permettre de faire ce truc illégal que tu demandes, mais pourquoi pas si le principe t'intéresse? Par contre, pas un mot de ce que tu me demandes. Je risque gros. Nous longeons les salles de classe où un professeur parle devant une dizaine de détenus avant d'arriver dans la bibliothèque où il est quasi sûr de le trouver. Quelques tables posées entre les rayons, quelques hommes éparpillés prennent des notes. Un canapé défoncé dans un coin en accueille un autre, en train de lire Les Misérables. Attends-moi là, me lance Cédric en s'éloignant vers le fond de la pièce. Il s'approche de Kevin Simonet qui est les traits de son frère. En plus doux. Ses cheveux bouclés lui donnent un visage d'ange. Le dos courbé, les épaules rentrées, il semble vouloir disparaître dans son sweat trop grand. En pantalon de sport, comme tous les détenus, il porte des baskets abîmées. Sa jambe droite aussi a une vitesse hallucinante et il se frotte les pouces dans un mouvement continu. Le jeune homme me jette un regard suspicieux, sans animosité, puis répond à son surveillant qui semble argumenter avant de s'attabler avec lui après un check, point contre point. Mon ami me fait signe de m'approcher. Il l'a dans sa poche. Un simple « fais-moi confiance » a dû suffire. Je m'installe avec eux et je fais en sorte que Bloom s'assoie entre nous deux. Il tend la main vers lui. « Je peux, il mord pas. »« Tu peux ?» Je lui parle de Bloom, de son travail, de sa gentillesse. Je souris en lui disant qu'il est plus humain que certains humains. J'observe mon compagnon. Son attitude est en train de dire au jeune homme qu'il se sent bien avec lui et que ses caresses sont agréables. Je ressens immédiatement ce que relatait Cédric des bienfaits de la médiation animale. À quelle autre tendresse ont-ils droit ici? Tu sors bientôt alors? Ouais. Tu dois être soulagé. Oui. Tu vas faire quoi dehors? Une formation de maçon. On lui a trouvé un patron pour un apprentissage. Kevin est sérieux et bosseur, ajoute Cédric. Ton frère sera là pour t'aider, j'imagine. Je le connais, je travaille avec lui quand j'interviens à la gare. Décontenancé par son silence, confirmé dans mon instinct, je jette un œil à mon ami qui très intelligemment le ramène au chien. Bah dis donc, tu sais y faire avec les animaux. Il va plus vouloir repartir. Kevin Simonet sourit en continuant à observer Bloom qui a posé son museau sur sa cuisse. Il garde le silence un moment avant de parler, sans nous regarder. C'est pas mon frère qui m'aidera à la sortie. Il en a rien à faire de moi, il pense qu'à sa gueule. Avant-hier, il est venu me dire qu'il y avait un fouille-merde qui s'intéressait à mon dossier. C'est vous?
C'est moi.
Pourquoi? Je vais te dire la vérité. Durant une intervention où j'étais avec Bloom pour une suspicion de colis piégé, ton frère a croisé Capucine Claudel, la fille du couple mort dans l'accident que tu as causé il y a 11 ans. Bloom a ouvert les yeux et regarde la main crispée du jeune homme, dont les caresses sont devenues presque brusques. L'échange de regards semble interpeller Kevin et je le vois se contenir pour retrouver un geste doux envers mon chien. Ton frère a une réaction étrange en découvrant que c'était elle, comme si son identité lui posait un problème. Le connaissant un peu, je sais que ce n'était pas pour la préserver vu qu'il en a que pour sa gueule.
Comment elle va?
Elle s'en sort. C'est dur, mais elle s'en sort. Et sa petite sœur aussi. Cédric et moi voyons cette petite larme tomber directement de la paupière de Kevin et atterrir sur sa main qui caresse toujours. Il l'essuie d'un geste rapide et lourd de honte. Mon ami se lève et nous annonce qu'il doit aller régler un truc et qu'il m'attend dans le couloir. J'en profite, aussitôt. J'ai rencontré Albert Peter Schmidt. Il m'a parlé de votre correspondance.
Je n'arrivais plus à le lire à la fin, alors on a arrêté.
Il regrette beaucoup de ne plus pouvoir t'écrire.
Vous le connaissez?
Il habitait la maison au carrefour où a eu lieu l'accident.
Il ne dormait pas, il a tout vu, Kevin. Tout ce qu'il y avait à voir avant que les secours arrivent. Les yeux du jeune homme suivent les miens et s'y accrochent pour contenir ceux qui cherchent à se frayer un chemin. Tu veux m'en parler? Je rejoins mon ami un quart d'heure plus tard. Je raconte à Cédric qui me raccompagne jusqu'à la sortie.
Tu vas faire quoi maintenant?
Réfléchir à la médiation animale. C'est magique ton truc. J'aimerais essayer avec des chevaux, mais la directrice tique un peu.